Bonjour et bienvenue à tous. En ce jeudi où beaucoup d'écoles sont fermées et des enseignants en grève, mais le Collège de France, lui, reste toujours ouvert et les cours continuent. Alors, tout d'abord, pas de nouvelle année sans nouveaux livres. La semaine dernière, je sacrifiais donc au rite des vœux pour la nouvelle année. Et cette fois-ci, donc, je vous apporte un nouveau livre que j'ai co-dirigé avec mon excellent collègue de l'Université de Paris, le professeur Stéphane Feuillat, et un livre édité par notre jeune collègue Joseph Ciodo sur les rites, précisément. Il s'agit du résultat d'un colloque qui a eu lieu ici au Collège de France en 2018. Et vous avez donc une série d'interventions venant vraiment de collègues du monde entier sur la question des rites telle qu'elle est traitée dans les sources classiques chinoises, mais pas seulement. Il y a un regard comparatiste qui vient également de collègues qui travaillent sur l'Inde védique ou sur la Grèce ancienne, la Rome antique. Donc, c'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions Hémisphère. Voilà. Dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Alors, la semaine dernière, également histoire de commencer la nouvelle année du bon pied, je vous encourageais à aller au cinéma. Non pas exactement pour vous divertir, mais pour vous informer sur la condition faite en Chine à des millions de paysans chassés de leurs terres et recasés, si je puis dire, dans des immeubles type HLM, c'est-à-dire des paysans qui sont forcés, contraints et forcés, à devenir de nouveaux urbains, hein, avec la conséquence qu'ils sont, d'une certaine manière, plus faciles à contrôler. Alors, je vous conseillais, en conséquence, d'aller voir ce documentaire, dont vous voyez l'affiche à l'image, réalisé par un jeune sinologue et sociologue franco-argentin, Boris Schwarzman, sur une petite communauté de villageois du sud de la Chine qui refuse d'être transformée littéralement en lapins à clapiers et qui sont revenus, coûte que coûte, vivre tant bien que mal dans leur maison détruite au bulldozer et pour cultiver les quelques lopins de terre qui n'ont pas encore été recouverts d'immeubles en béton armé. Alors, ce film intitulé Guangzhou, une nouvelle ère, je sais que certains d'entre vous sont d'ores et déjà allés le voir à l'espace Saint-Michel, tout près d'ici. Mais je signale qu'il se donne encore et il est encore temps de vous y précipiter. Alors, ce village d'irréductible près de Canton, évidemment, nous pourrions, en tant que Gaulois, nous amuser à faire un parallèle avec Astérix. Sauf que nos villageois de Guangzhou, eux, ne possèdent pas de potions magiques. Et donc, le problème, voire la tragédie, pour eux, c'est que le rapport totalement asymétrique entre le fort et le faible n'obéit ni au droit, ce qu'on appellerait en chinois « fa », ni au principe moral du juste, ce que les Chinois appellent yi, et en prononciation japonaise, qui vous est peut-être plus familière, c'est gi. Donc, il ne reste plus que la loi du plus fort dans toute sa brutalité. Et comme se le demandait notre sociologue chinois Sun Liping, dans son poste que nous avons lu il y a quelque temps, intitulé « Entre la civilisation Wenming et la barbarie Yéman », nous ne devons pas nous égarer, hein, c'est-à-dire nous ne devons pas perdre de vue une distinction très claire et très nette. Et dans ce poste, Sun Liping pose au fond la question de savoir si la loi du plus fort, est-ce que c'est ça la civilisation ? J'ai surligné en jaune le dernier passage de son poste que je vous relis rapidement en traduction. Donc, il pose plusieurs questions avec chaque fois la même forme rhétorique. Donc il y a un effet rhétorique très, très puissant ici. Donc il dit ceci, dans le cas d'un changement de gouvernement, on peut y arriver en faisant des milliers de morts et en faisant couler des torrents de sang. Alors là, j'imagine qu'il fait allusion, par exemple, à la Révolution. On va voir peut-être à quelle révolution il pense. Ou bien, on peut y arriver en passant par une procédure et une élection qui ont l'approbation des gens. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare ? Autre exemple, dans le cas des affaires publiques, elles peuvent être gérées par un petit nombre de manière arbitraire ou par la participation d'un plus grand nombre de manière à réaliser la volonté du plus grand nombre. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare ? Dans la vie en société, un groupe de gens peut s'arroger le pouvoir de regarder de haut et d'opprimer un autre groupe, ou bien tout le monde peut coexister à égalité, ou du moins, quand l'égalité de fait n'est pas réalisable, avec la garantie d'une égalité des lois et des droits. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare ? Et la phrase finale, je le dis encore une fois, entre la civilisation et la barbarie, nous, Chinois, nous ne pouvons pas nous permettre de nous égarer. Alors, vous mettez ça en regard avec ce que déclare l'un des villageois de Guangzhou qui dit face caméra, la notion de droit n'existe tout simplement pas en Chine. Et là, vous avez un contraste intéressant. Alors, vous vous rappelez peut-être que nous avons lu ce poème de la Chine ancienne qui est tiré du livre canonique des Odes, en chinois le Shi Jing, et qui s'intitule donc Shuo Shu, c'est-à-dire les gros rats. Alors, les gros rats, on voit à peu près ce que ça peut être, ce sont des gens, fonctionnaires qui se sont engraissés sur le dos de la population et en particulier des paysans en l'occurrence. Alors c'est une sorte de chanson populaire qui a été composée en signe de protestation contre précisément l'exploitation et l'injustice. Et dans ce poème, vous avez une espèce de leitmotiv que j'ai surligné en jaune. Qui consiste en fait à dire bon ben puisque vous n'arrêtez pas de nous manger la laine sur le dos et de nous piller nos réserves de grains, nous n'avons pas d'autre solution que de partir pour une contrée meilleure, ce qu'ils appellent le trou, une terre heureuse, un le guo, un pays heureux, ou un le jiao, donc une contrée heureuse. Mais Dans le cas de nos villageois de Quanzhou, eux, ils choisissent au contraire de rester, coûte que coûte. Non seulement pour faire valoir leurs droits de paysans attachés à leurs terres, mais aussi pour manifester leur opposition à un projet aussi mégalomane que fallacieux d'île écologique. C'est-à-dire, en fait, ces paysans, on les a expropriés sous prétexte, justement, de transformer leur île fluviale en île écologique. Alors, ce méga-projet se traduit dans les faits par la construction d'une forêt, non pas d'arbres, hein, mais d'immeubles en béton, hein, matériaux écologiques s'il en fut. Donc, vous voyez notre villageois hein, penché sur son lopin de terre avec donc, la merveilleuse tour écologique au fond hein, qui domine. Hein. Alors, j'ai eu maintes fois l'occasion ici de rappeler non seulement que la civilisation chinoise, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est avant tout une civilisation paysanne, mais j'ai eu souvent l'occasion de dire que la philosophie chinoise ancienne est avant tout une philosophie de jardinier. Au cours de nos lectures ici même, nous avons souvent remarqué qu'il y a une fréquence des métaphores végétales et des métaphores de la culture au sens de l'agriculture, mais vous allez voir que justement la culture des végétaux a beaucoup à voir avec la culture de soi. Nous avons remarqué cette fréquence dans les sources anciennes. Et je vous en rappellerai quelques-unes parce que je crois que c'est vraiment le moment de le faire. Et vous noterez que nous avons ici la photo. Cette photo me touche beaucoup, je dois dire. On voit ce villageois chinois, ce paysan chinois, donc penché sur ses plantations. Et vous voyez dans le film que ce sont des gens qui savent y faire, hein, qui savent exactement comment cultiver la terre, même si c'est que sur quelques mètres carrés qui leur restent. Hein. Ils ont ces arrosoirs à double pommeau, etc. Enfin, je veux dire, ils savent s'y prendre. Hein. Bon. Alors, tout ça, ça nous éloigne évidemment d'Astérix, hein, dont nous connaissons le goût prononcé pour la castagne. Hein, quand on lui demande quelle est la spécialité du coin, il dit la châtaigne, en décochant donc un bon coup de poing dans la figure donc, de l'interlocuteur. Bon. Et nous sommes en fait aussi, même si j'ai osé ce rapprochement la dernière fois, nous sommes pas tout à fait dans le même schéma que Gandhi, qui lui, en fait, recourt beaucoup à, disons, l'image du pèlerin, hein, du pèlerinage. Gandhi, c'est quelqu'un qui est toujours en marche, enfin, un petit peu différemment de ce que nous connaissons ici, et qui entraîne donc ses concitoyens dans des pèlerinages, des marches à travers l'Inde. Ici, nous avons au contraire des paysans qui sont vraiment accrochés à leur terre. Alors, parmi ces sources anciennes, vous avez par exemple ce fameux passage du Lao Tzu, qu'on appelle plus souvent ici le Tao Te Ching, au verset 64, qui vous dit ceci, donc « Qi an yi chi, qi wei zhao yi mou, qi cui yi pan, qi wei yi san, wei zhi yu wei you, zhi zhi yu wei luan, he bao zhi mu, sheng yu hao mo. » Alors donc, ce qui est en paix hein, et facile à saisir, ce qui pointe tout juste hein, à la surface et facile à gérer, hein, Alors justement, vous avez constamment dans la littérature ancienne cette image justement du germe, hein, de quelque chose qui pointe tout juste à la surface. Ce qui est fragile et facile à briser, ce qui est à peine visible est facile à disperser. Leçon morale, hein, il faut donc wage, c'est-à-dire agir, hein, au moment où les choses ne sont pas encore là. Et c'est plus facile de gouverner quelque chose, hein, quand la situation n'a pas encore dégénéré en désordre. Et he-bao-zhi-mu, hein, l'arbre dont le tronc, en fait, dont on ne peut embrasser le tronc qu'avec les deux bras, hein, autrement dit, vraiment un tronc assez considérable, hein, il faut toujours se souvenir qu'il est né justement d'une petite brindille. Et ce rebaojemo, hein, ça nous rappelle effectivement cette affiche du film où vous voyez donc un arbre qui a résisté précisément, qui est un signe de résistance à ces barres d'immeubles que vous voyez au fond. Alors, je reviens donc à mes sources anciennes et à part le Laozi, vous avez un certain nombre de références, en particulier dans le Mencius. En chinois, le Mengzi, maître Meng, qui se présente un petit peu comme l'héritier de l'enseignement de Confucius au IVe siècle avant l'ère chrétienne, hein, et qui fait revenir dans son argumentation politique très souvent des métaphores justement de culture paysanne. Alors, vous avez tout d'abord ce passage du chapitre 1, première partie, section 6, pour lequel je fais référence à mon histoire de la pensée chinoise. Je m'aperçois que de temps en temps, ça rend service quand même. Alors, dans ce passage, Mencius reprend l'opposition que l'on trouve déjà dans les entretiens entre l'idéal politique confucéen d'humanité, c'est-à-dire de gouvernement par le jeune, le principe de solidarité ou d'équité humaine, en opposition avec le principe du gouvernement par la force et la coercition prôné par les légistes. Alors, vous avez ici Mencius de nouveau en situation de dialogue avec un puissant de ce monde, un roi. Il s'agit du roi Xiang de Liang. Et donc, ce roi Xiang de Liang, apparemment, n'a pas, comment dire, vraiment la stature d'un roi, parce que Mencius dit qu'en le regardant de loin, hein, il ne m'est pas apparu comme un souverain. Et à y regarder de plus près, je n'ai rien vu en lui qui inspira le respect. Il m'a demandé abruptement, hein, comment l'Empire peut-il trouver la stabilité. Ça, c'est la grande question de l'Empire chinois de tout temps et encore maintenant. Et donc Mencius lui répond, il le trouvera dans l'unité. Bon, alors l'autre Brutus continue à lui demander qui va pouvoir réaliser cette unité. Et Mencius lui répond, celui qui ne prend aucun plaisir à massacrer les hommes. Et la brute lui répond, mais on ne trouvera jamais personne dans l'Empire pour ne pas pour lui octroyer l'Empire. Et Mencius lui rétorque, en fait, c'est le contraire. Il ne se trouvera personne dans l'Empire pour ne pas le lui octroyer. Et là, il introduit justement cette métaphore végétale que vous avez dans le passage surligné en jaune ici. Votre Majesté a-t-elle déjà observé des pousses de riz ? S'il ne pleut pas au septième et huitième mois, les pousses se dessèchent. Mais dès que le ciel amoncelle d'épais nuages et que la pluie tombe à torrents, les pousses se mettent tout d'un coup à proliférer. Qui pourrait alors s'y opposer ? Or, parmi les meneurs d'hommes aujourd'hui, il n'en est pas un qui ne prenne plaisir à massacrer. S'il s'en trouvait un seul qui n'y prit pas plaisir, alors le peuple de l'Empire tout entier se retournerait et tous les regards convergeraient vers lui. En vérité, s'il en était ainsi, le peuple viendrait vers lui en masse, pareil à l'eau qui coule naturellement vers le bas. Et quand l'eau tombe à flot, qui pourrait s'y opposer ? Donc vous avez chez Mencius toujours cet argument selon lequel, en fait, le peuple suit, vote avec ses pieds en quelque sorte, venant en masse rejoindre justement un pays heureux, que, comme il est dit dans les Odes, où justement on les traite avec justice, hein, et que du coup ce mouvement est absolument irrésistible. Parce que vous avez ici un dialogue justement entre un puissant de ce monde qui ne raisonne que par la force et la coercition, et qui dit mais Amensus, mais votre idée là d'attirer les gens par le sens de l'humain, c'est vous rêvez quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes une espèce d'idéaliste, complètement hors sol. Or là, Mencius montre qu'il a quand même un argument de masse, puisque surtout dans la Chine antique, hein, d'avoir une population nombreuse et prospère, ça assure tout simplement la richesse et la puissance du royaume en question. En quelque sorte, là aussi, c'est pas tout à fait, ça n'a pas tout à fait perdu de son actualité non plus. Bien. Alors, si nous abordons maintenant le deuxième passage que vous avez sur la diapositive, il s'agit d'un très fameux passage où Mencius parle d'un souffle, d'une énergie morale, là aussi irrésistible, qu'il appelle le Haoranzhiqi, c'est-à-dire c'est une énergie qui est débordante, hein, qui est capable d'inonder le monde entier. Il dit que c'est vraiment quelque chose qui est capable d'emporter tout sur son passage. Et ça, c'est une réponse justement à ceux qui estiment que la justice ou la justesse morale, hein, le principe du juste, du yi, hein, c'est totalement inefficace, hein, parce que à la limite ça peut concerner la personne du souverain, hein, mais ça reste totalement inefficace, et ce sont des gens qui encore une fois ne jurent que par la force et la coercition. Or là, Mencius dit en fait que nous avons un sens moral qui est une énergie morale. Il parle du qi, ce fameux concept apparu sous les royaumes combattants en Chine, et qui maintenant fait un tabac, si vous me passez l'expression, en Occident, avec toutes sortes de qigong, c'est-à-dire de travail sur le souffle vital ou sur l'énergie. Vous avez évidemment le Tai Chi Chuan, etc., le Kung Fu et tout ce qui s'ensuit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Mencius parle du sens moral comme d'une énergie vitale. Et là aussi, il introduit donc une métaphore, ou même on pourrait dire une sorte de parabole paysanne, où il dit il ne faut pas faire comme ce paysan du pays de Song. Alors, le pays de Son, qui est situé dans la péninsule de l'actuelle province du Shandong, donc nous sommes sur une zone côtière, et le pays de Son est assez proche du pays natal de Confucius. Et ce pauvre pays de Song, en fait, dans la littérature antique, excusez-moi pour les Belges et les Suisses, mais c'est un petit peu, en fait, si vous voulez, les Benêts du coin. Hein. Et alors donc, ce bonhomme de Song, on vous raconte, vous l'avez ici dans le passage du Mensus 2 à 2, ce bonhomme de Song se désolait de ne pas voir ses pouces, encore une fois, vous avez cette image des pouces, grandir assez vite. Alors, il a l'idée absolument génialoïde de tirer sur les pouces pour les faire pousser plus vite. Bon. Et alors, il rentre chez lui en toute hâte, tout content, très fier de lui, et dit à ses gens, « Ah, vraiment, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai aidé les germes à pousser. » Alors là-dessus, son fils se précipite pour aller voir les dégâts et de fait, les pousses ont déjà séché sur pied. Bon, parce que naturellement, enfin, si vous tirez sur les pousses, forcément, elles se détachent de terre et elles meurent. Bon. Alors, morale de Mensus, dans le monde, rares sont ceux qui ne sont pas tentés d'aider les germes à pousser, parce qu'ils trouvent toujours que ça ne va pas assez vite. Alors, ceux qui abandonnent, persuadés que c'est peine perdue, sont ceux qui négligent de cultiver les pousses. Et alors, vous avez ceux qui laissent le jardin en friche. Bon, ça, c'est une politique possible. Mais ceux qui forcent la croissance sont ceux qui tirent justement sur les pousses. Effort non seulement inutile, mais nuisible. Autrement dit, ici, c'est leçon de jardinier, à la limite, il vaut mieux laisser votre jardin en friche plutôt que d'essayer de tirer sur les pousses pour les faire grandir plus vite. Alors, autre passage dans le Mensus, où cette métaphore paysanne revient. Il s'agit donc d'un passage où Mensus justement dit que devenir un shengren, devenir un saint, c'est-à-dire devenir une sorte de modèle moral, c'est à la portée de tout le monde. Et en cela, il se distingue un petit peu de Confucius qui, dans les entretiens, nous fait un petit peu croire que justement cet état de sainteté morale est absolument inatteignable, c'est juste un idéal vers lequel il faut tendre, alors que là Mensus lui est beaucoup plus, comment dire, il nous ramène les choses plus à notre portée et il dit que n'importe qui peut devenir un yao ou un shun, c'est-à-dire donc ces parangons de moralité de l'Antiquité. Et là aussi il prend un exemple, celui de l'orge. Alors, on en répand la semence, puis on la recouvre de terre. Le type de terre choisi est le même pour toutes les parcelles, ainsi que le moment de semer. L'orge, oui, allô, l'orge pousse à merveille, et dès le solstice d'été, elle est parfaitement mûre. Si différence il y a, c'est seulement que les sols sont plus ou moins fertiles, les pluies et la rosée plus ou moins bienfaisantes et le travail de l'homme plus ou moins important. Les choses de même espèce sont toutes semblables, pourquoi en irait-il autrement pour les hommes? Il n'y a aucune différence d'espèce entre les saints et nous. Et Mensus continue avec une remarque que je trouve toujours très amusante. Il cite un autre maître qui disait « Si je vois un cordonnier fabriquer des chaussures pour quelqu'un dont il ne connaît pas la pointure, je peux être certain qu'il ne fabriquera pas des paniers. » Et tout ça parce que toutes les chaussures se ressemblent du fait que tous les pieds ont quelque chose en commun. Donc les chaussures ici, en fait, ce sont des chaussures de paysans, justement, des chaussures faites avec de la paille, autrement dit, le même matériau que vous utilisez pour faire des paniers. Mais si vous êtes un cordonnier, vous n'allez pas fabriquer des paniers, vous fabriquez des chaussures. Et donc, tout ça, ça nous donne bon espoir de devenir, nous aussi, des saints exemples de moralité. Et enfin, le dernier passage, qui est un de mes passages préférés dans le Mencius et on pourrait dire dans toute la littérature confucéenne antique, c'est ce fameux passage concernant la montagne du bœuf, Niaoshan. Alors, Maître Mengzi dit, vous êtes ici en 6 à 8, alors les arbres de la montagne du bœuf étaient très beaux par le passé. Mais étant à proximité de la capitale d'un grand pays, on les coupe à la hache. Comment pourraient-ils conserver leur beauté ? Ici, j'en discutais avec l'un d'entre vous après le cours la semaine dernière. Donc ici, vous voyez que dès le IVe siècle, nous avons le témoignage de quelqu'un qui nous parle déjà de déforestation à cette époque, pour justement faire de la place aux cultures maraîchères. Et donc Mencius continue en disant « Du fait du repos que ces arbres prennent durant le jour et la nuit et de l'humidité que leur apporte pluie et rosée, ils leur repoussent bien quelques surgeons. Mais alors arrivent les bœufs et les moutons pour les brouter. Voilà pourquoi la montagne se retrouve dans un tel dénuement. Et en la voyant ainsi dénudée, on croit qu'elle n'a jamais eu de bois, mais comment cela pourrait-il être sa nature de montagne ? C'est-à-dire, en fait, les montagnes chinoises, vous le voyez dans la peinture, la peinture classique, les montagnes sont en général couvertes d'arbres. Alors, là, Mencius établit le parallèle avec l'être humain. Quant à ce qu'on trouve en l'homme, comment pourrait-il n'y avoir aucun esprit d'humanité et de juste, c'est-à-dire l'un yi, qui sont des termes clés de l'enseignement confucéen. Ce qui fait que l'homme abandonne son esprit foncièrement bon est ce que la hache fait aux arbres. Si cette hache en coupe jour après jour, comment pourraient-ils garder leur beauté ? Donc, voilà pour justement toutes ces métaphores donc végétales. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le végétal qu'on est dans les jolies fleurs. C'est ça que j'ai voulu vous montrer en vous rappelant tous ces passages. Le propos dans lequel intervient justement toutes ces métaphores de plantation, de végétaux, de culture agricole, mais aussi de culture morale, c'est tout ce qu'il y a de plus politique. Et je vous rappellerai que c'est le même Mencius qui répondait avec la même franchise à un autre puissant de son temps dans ce dialogue que nous lisions la dernière fois et dont je vous rappelle donc les deux répliques surlignées en jaune. Vous avez un autre roi qui pose la question de savoir quel est le rôle des grands ministres. Alors, ici, Mencius fait une distinction entre les grands ministres qui sont proches du souverain à la fois par le sang, par la filiation familiale, et par, justement, le devoir moral. Alors que vous en avez d'autres qui portent un nom clanique différent et par conséquent qui ont un devoir moral vis-à-vis du souverain un petit peu moindre. Alors pour justement les ministres les plus proches, leur devoir c'est d'admonester le souverain quand il commet des fautes graves, mais si le souverain n'y prêtent aucune attention à leurs remontrances répétées, à ce moment-là, ils doivent le « yi wei », littéralement le changer de position, autrement dit, le détrôner. Et on avait vu la dernière fois que il y a une didascalie tout à fait amusante. On voit le roi changer de couleur, changer de visage. Il devient tout vert quand il apprend ça. Et une fois qu'il a repris ses esprits, on peut continuer la conversation et parler justement des ministres qui sont un peu plus éloignés, qui portent un nom clanique différent. Et eux aussi ont le devoir d'admonester le souverain. Mais si le souverain n'y prête aucune attention, eux, ils ont le devoir de partir, de quitter le pays. Autrement dit, ici, il n'y a pas d'autre choix que soit de déposer le souverain, évidemment à ses risques et périls, et ça, ça fait allusion à ce que Sun Liping appelait justement la méthode forte, la méthode violente, avec évidemment beaucoup d'effusion de sang, ou bien il faut partir. Comme l'ont fait de nombreux dissidents chinois, dont par exemple le très célèbre artiste Ai Weiwei, qui dit dans une interview récente qu'il a donnée en anglais à une journaliste anglaise qu'il n'a pas eu d'autre choix que de partir, de se mettre en exil volontaire. Donc il est passé par l'Allemagne et maintenant il est, je ne sais pas si c'est que le climat allemand lui a semblé un peu frisquet, et maintenant il est au Portugal. Alors, la dernière fois, nous lisions tous ces loci classici des sources confucéennes, comme le Mencius, ici, ou le Xiaojing, le livre de la piété filiale, puisque, comme l'a souligné Léon van der Merch dans l'article que je vous signalais, je cite, il ressort de ces textes que la remontrance est fondamentalement un devoir, c'est-à-dire un devoir moral, un yi, et même un devoir du genre le plus strict, puisqu'il relève de la piété filiale. Là, dans le texte du Xiaojing, c'est-à-dire le livre de la piété filiale, on voyait réapparaître de nouveau cette analogie entre le lien qu'il y a, le lien filial qu'il y a entre un fils et son père, et le lien politique qu'il y a entre un ministre et son prince. Donc là, vous avez un modèle politique qui est tout à fait organique. Et Léon van der Merch poursuit en disant, je cite, « Dans la tradition chinoise des remontrances, le devoir n'est pas un vain mot. Nombreux sont les lettrés héroïques qui, à contester des dispositions arrêtées par le pouvoir impérial, se sont exposés au bannissement, à la prison ou même à la mort. » Et c'est ce qu'on a appelé donc le... je ne sais pas pourquoi ça a disparu de la diapositive. Mais enfin, bref. Donc, c'est ce qu'on appelle le tianci, c'est-à-dire donc la remontrance jusqu'à la mort. Et Léon van der Merch poursuit en disant que c'est sous les Ming que s'illustre le plus cet héroïsme dans la résistance à la répression féroce de toute contestation. Alors, on a vu justement que les Ming, ce sont eux qui ont chassé les Mongols et qui ont rétabli donc une dynastie chinoise. Mais alors, du coup, ils en ont quand même profité pour se débarrasser de l'institution de la remontrance qui avait été supprimée par les Mongols. Donc, les Ming ont lancé une espèce de propagande un petit peu nationaliste, enfin, en disant, bon, c'est nous qui avons débarrassé la Chine des barbares mongols, mais ils en ont quand même profité pour se débarrasser aussi de cette institution gênante pour eux de la remontrance. Et de fait, les annales des Ming ont gardé la trace des destins tragiques d'une quarantaine de hauts fonctionnaires qui ont payé de leur vie leur remontrance. Et on connaît à ce titre la fameuse histoire du célèbre Haere, dont vous avez le portrait ici à l'image, qui est né en 1514 dans l'île de Hainan, tout au sud de la Chine, et qui avait probablement des ascendances musulmanes dans sa famille, et qui est mort en 1587. Alors, ce Haere est connu pour avoir adressé des remontrances, vous allez voir, assez virulentes à l'empereur en place, l'empereur Shizong, dont le règne, dont le nom de règne est Jiajing, qui a régné entre 1521 et 1566. Et donc, Haere est connu pour, avant de soumettre ses remontrances à cet empereur, il avait pris soin donc d'acheter son cercueil. Donc voilà. Donc là, disons que quand vous avez des remontrances à faire à l'empereur, il vaut mieux que vous arriviez avec votre cercueil sous le bras. Alors, ce personnage de Haere, dont vous avez ici une statue commémorative dans son île natale de Hainan, a inspiré un historien du XXe siècle du nom de Wu Han. Vous le voyez ici à l'image. Il est né en 1909 et il est mort en 1969 en pleine révolution culturelle dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons. Alors, ce Wu Han était donc, comme vous le dit le petit commentaire à côté de sa photo, donc c'était un historien, un membre du Parti communiste chinois. Et il a été, à un moment donné de sa carrière, donc maire adjoint de la capitale, de la ville de Pékin. Et il est l'auteur d'une pièce de théâtre sur laquelle nous allons revenir tout de suite. Avant cette pièce de théâtre, Wu Han est l'auteur d'un article qui est d'abord paru dans le Renmin Zhibao, c'est-à-dire le quotidien du peuple, le 16 juin 1959, sous un pseudonyme. Alors, nous avons une traduction en français, nous avons cette chance, une traduction intégrale en français de cet article qui s'intitule Haere Ma Huangdi. Donc Haere Ma, évidemment le terme officiel ce serait plutôt Tien, hein, c'est-à-dire il présente une remontrance au Huangdi, à l'empereur, mais Ma c'est un terme du chinois courant, même familier, hein, Ma, ça veut dire enguirlander quelqu'un, quoi, hein, enfin, pour ne pas dire plus. Et donc, la traduction est due au grand Simon Less, hein, qui est le pseudonyme de Pierre Rickmans, donc un très grand sinologue d'origine belge, qui lui aussi a beaucoup connu en fait une sorte d'exil volontaire, et on comprend pourquoi quand on voit ce qu'il a publié. Ça, c'est une de ses premières publications, Les habits neufs du président Mao, livre qui a fait date en 1971 et qui dénonce effectivement donc tous les abus, la brutalité du régime maoïste. Alors, vous trouvez justement cette traduction de l'essai de Wu Han dans ce livre, et j'en profite pour vous recommander un autre livre au cas où vous ne sauriez vraiment pas quoi lire, ou même, je pense que c'est même une lecture prioritaire, ce sont ses essais sur la Chine, où vous retrouvez justement en premier les habits neufs du président Mao et d'autres essais, Ombre chinoise, Image brisée, La forêt de feu, L'humeur, l'honneur, l'horreur, qui sont tous ces grands essais de Pierre Rickmans alias Simon Less sur cette Chine maoïste. Alors, que dit cet article de Wu Han ? Ça commence comme ça. Alors, sous l'Ancien Régime, l'empereur jouissait d'une inviolabilité absolue. Son nom même était tabou. Tout caractère qui se retrouvait dans la composition de son nom devait être écrit avec l'un ou l'autre jambage en moins. Donc, interdiction absolue de faire une référence quelconque au nom de l'empereur. Quiconque négligeait cet usage et par mégarde écrivait le caractère tabou dans son intégralité se trouvait en contravention avec la loi et se voyait traîné en justice et condamné à une peine de prison. Donc là, vous voyez qu'il en faut peu pour se retrouver en prison dans la Chine impériale et encore moins dans la Chine d'aujourd'hui. Alors, Wuhan continue. Alors, quant à réprimander l'empereur, c'est une chose dont on a bien rarement entendu parler. Et Hai Rui est un de ces rares individus qui osa véritablement semoncer l'empereur et qui le fit avec une furieuse allégresse. Le passage le plus sévère de sa réprimande était ainsi tourné. Donc, Wuhan cite ici donc, le mémorial de remontrance présenté par Hai Rui à l'empereur Jia Jing. Le peuple est maintenant accablé d'impôts, excédant largement l'ordinaire. Il en va ainsi dans tout le pays. Vous dépensez des sommes considérables dans le domaine de la religion et de la superstition. En fait, ce que Hai Rui reproche à l'empereur, c'est que l'empereur a complètement abandonné le gouvernement de l'Empire pour se consacrer à des dévotions. C'est quelqu'un qui s'imaginait qu'il pouvait obtenir l'immortalité en pratiquant des cultes taoïstes, etc. Bon, et ces dépenses ne font qu'empirer de jour en jour. La population se trouve réduite à la misère nue. Sa détresse extrême dure depuis plus de 10 ans. Dans tout l'Empire, le peuple a fait un jeu de mots sur le nom de votre règne, Jia Jing. Alors, le jeu de mots, Jia Jing, Jia Jia Jie Jing, c'est-à-dire chaque famille se retrouve totalement essorée. C'est-à-dire, elle se retrouve complètement à sec à force d'être essorée. Bon. Donc ça, c'est le jeu de mots. Bon, alors, non seulement donc, le peuple ne se prive pas de mentionner le nom de règne, mais en plus, il fait des jeux de mots dessus. Et ça, c'est une pratique encore en cours aujourd'hui. Donc vous aviez, par exemple, sous l'équipe dirigeante précédente, donc le grand slogan sur la société d'harmonie socialiste, le He Xie She Hui. Bon, et le peuple, le bon peuple chinois, donc en fait, s'est mis à mettre des crabes partout parce que en fait, crabe se dit He Xie aussi. En fait, donc on peut jouer sur l'homophonie. Donc ça, c'est un exercice favori en Chine. Alors, non seulement, et ça c'est Wuhan qui reprend la parole, non seulement cet empereur Jia Jing, au long de plusieurs dizaines d'années de règne, ne s'était jamais vu pris à partie de façon aussi directe et audacieuse, mais dans tout l'ensemble des histoires dynastiques, on trouverait difficilement un exemple semblable. Chaque phrase du mémorial faisait mouche. Jia Jing, outré et furibond, crachait du feu. Alors, l'article donc de Wuhan continue ainsi. Je ne vais pas pouvoir vous le citer entièrement, mais toujours est-il que, à la lecture de ce mémorial, Jia Jing ne se tint plus de colère. Il jeta le mémoire à terre et ordonna d'arrêter immédiatement Hai Rui avant que celui-ci ne puisse s'échapper. Mais alors, l'un des conseillers de l'empereur, qui est un eunuque, forcément, lui dit « D'après ce que j'ai entendu dire, cet homme s'est déjà préparé pour le pire. Il a déjà fait ses adieux à sa femme et a confié ses affaires aux soins d'un ami. Ses domestiques, frappés d'épouvante, se sont tous enfuis. Il ne cherchera pas à échapper à son sort. D'un caractère inflexible et droit, il jouit d'une grande réputation. Dans ses fonctions officielles, il a toujours fait montre d'une scrupuleuse honnêteté et n'aurait jamais voulu léser les ressources de l'État, fût-ce d'un seul grain de riz. C'est vraiment un fonctionnaire intègre. Et Wuhan de poursuivre en disant « Jia Jing, apprenant ainsi que Hai Rui ne craignait pas la mort, demeura tout interdit. » Il ramassa le mémoire et le relut en soupirant, incapable de prendre une décision. Il donna finalement l'ordre de jeter Hai Rui en prison et de déterminer qui, en fin de compte, se trouvait derrière toute cette affaire. La commission pénale recommanda la peine de mort pour Hai Rui, mais Jia Jing ne put se résoudre à signer la sentence. Mais heureusement, l'empereur, 2 mois plus tard, meurt, et c'est ainsi que Hai Rui échappe de justesse à la peine de mort. Alors, l'article de Wuhan se termine ainsi. Il y a 2 aspects du caractère de Hai Rui dont nous pourrions nous inspirer aujourd'hui encore. Nous sommes en 1959, donc 10 ans après l'instauration de la République populaire de Chine par Mao Zedong. Alors, premièrement, Hai Rui faisait toujours une claire distinction entre la vérité et l'erreur, entre la vérité et le mensonge. Et deuxièmement, il entretenait une volonté de combattre jusqu'au bout les forces rétrogrades. Évidemment, alors ça c'est la phrase pour se protéger, n'est-ce pas, Hai Rui vivait sous l'Ancien Régime, il y a quelques 3 ou 4 siècles. Ses critères de valeur ne sauraient donc entièrement s'identifier aux nôtres aujourd'hui. Mais la façon éclatante avec laquelle il prenait position, ainsi que son fougueux esprit de lutte, mériteraient bien que nous les imitions. Alors, ça c'est article publié sous pseudonyme dans le quotidien du peuple en 1959. Bon, en 1961, Wuhan remet le couvert, si j'ose dire, en transformant son article en une pièce de théâtre pour l'Opéra de Pékin. Donc c'est une pièce chantée. Bon, l'Opéra de Pékin, qui était un genre très affectionné par Madame Mao, Jiang Qing. Alors cette pièce s'intitule « Hai Rui Ba Guan », c'est-à-dire donc la destitution de Hai Rui, où Hai Rui est mise en scène comme un lettré, un fonctionnaire donc intègre, et qui, à ce titre, punit le fils d'une famille de notables qui s'est rendu coupable du meurtre d'un paysan et de l'enlèvement de sa fille. Et ce fonctionnaire intègre qu'est Hai Rui est désavoué par la cour et il est ensuite obligé donc de se retirer. Alors cette pièce a été mise en scène dès 1961 et de nouveau en 1965, et mal lui en a pris parce que le 10 novembre 1965, dans le journal de Shanghai, Wenhuipao, Yao Wenyuan, qui est un des individus de la bande des quatre, c'est-à-dire très proche de Madame Mao précisément, et de Mao lui-même d'ailleurs, publie une critique qui décrit la pièce de Wuhan comme un travail allégorique attaquant Mao lui-même, puisque Mao avait à l'époque exclu le général Peng Dehuai du parti, l'avait pratiquement condamné à pourrir en prison. D'ailleurs, Peng Dehuai est mort en prison. Et Yao Wenyuan donc accuse Wuhan d'être un allié des droitiers du parti. Alors là, être accusé d'être droitier, c'était la pire qualification qu'on pouvait avoir. Et c'est cet article de Yao Wenyuan qui condamne finalement Wuhan à la mort. Puisque vous le voyez ici, la photo est de mauvaise qualité, mais vous reconnaissez le nom de Wuhan sur une de ses affiches à gauche. qui est soumis à l'autocritique, hein, et ensuite à ce genre de traitement, hein, donc, que faisaient subir les gardes rouges à ceux qu'ils avaient désignés à la vindicte du peuple, hein, c'est-à-dire donc bras forcés vers l'arrière, hein, la position de l'avion. Hein, et ce monsieur, on voit qu'il a perdu une partie de ses cheveux parce que, évidemment, c'est comme ça qu'on traitait les gens. Hein, beaucoup en sont morts, évidemment, soit morts de... comment dire, de mauvais traitements physiques, ou bien morts de honte, de désespoir. Beaucoup se sont suicidés. Vous voyez là aussi le genre de choses charmantes qu'on faisait aux gens. On leur balançait de l'encre noire sur la figure, on les exposait à la vindicte publique. Et donc, Wuhan en est mort en 1969, et c'est probablement l'une des premières victimes de la révolution culturelle. Donc je suis obligée de vous quitter sur ces images peu réjouissantes, hein, mais je pense que dans nos circulations, nos va-et-vient à travers l'histoire chinoise, dans la très longue durée, vous apercevez quand même certaines constantes. Je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Merci de votre attention.